avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. Après les frissons de la finale de foot du championnat d'Afrique des Nations, je vous propose de remettre le sport au cœur de ses valeurs sociales, avec ses millions d'éducateurs sportifs inconnus et mal payés. Le sport, quand il est loin du business et des fantasmes de performance à l'extrême, est-il pourtant, pour autant, vertueux par nature ? Du basket à la lutte, que peut réellement apporter le sport à une génération de jeunes garçons et filles ? Le goût du collectif, l'égalité devant les règles, l'engagement. Nous allons en discuter avec nos invités. Et quant à vous, les voisins et les voisines, appelez-nous, parlez-nous de votre pratique sportive. Pas celle pour se sentir canon sur Instagram, non. Celle qui vous permet d'être ensemble, pour vivre, pour réaliser des moments collectifs, du moins dans les pays où le sport est encore possible, malgré la pandémie. On attend vos témoignages. Surtout, n'attendez pas la fin de l'émission. Appelez-nous dès maintenant au 33 7 64 45 51 41. Je vous présente nos invités, David Blot, qui est l'auteur de Sportwashing, que sont devenues les valeurs du sport. C'est publié rue de l'Échiquier. Bonjour David Blot, merci d'être avec nous.
Bonjour.
Vous êtes l'ancien directeur exécutif de Play International, qui est une ONG qui intervient auprès des enfants par l'éducation sportive. Également en ligne avec nous, Jean-Luc Agboyibo, qui est à Dakar. Bonjour Jean-Luc.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes le fondateur de Mille et Doux, c'est un programme utilisant le sport comme outil éducatif, vecteur de cohésion sociale. Et puis vous êtes aussi maintenant responsable des relations partenaires au sein de la Basketball Africa League. On sera aussi en ligne tout à l'heure avec Richard Womagno, qui est à Palimé, dans la région des Plateaux, au Togo, et qui est justement éducateur au sein du programme Mille et Doux. Il nous racontera un peu comment il travaille avec les jeunes. Et bien sûr, les voisines et les voisins, vous nous appelez au 33 7 64 45 51 41.
7 milliards de voisins. Parce que nous sommes tous des voisins.
Je vous lis le message d'Eladj, qui est professeur des écoles à Guédiaouaï, dans la banlieue de Dakar, au Sénégal. Et il nous dit, au-delà du développement des capacités physiques, de l'endurance, de l'habileté, le sport éduque au respect des règles, au respect de l'adversaire, à l'acceptation de la défaite, sans aucune rancune. On habitue nos élèves dès l'école primaire dans les cours d'éducation physique et sportive. Bah, c'est tout le contraire de la guerre, finalement, non ? David Blot.
Bah c'est ça, hein. c'est pas le sport qui éduque, hein. c'est l'éducateur et je pense que c'est important de garder ça à l'esprit parce qu'il y a un mythe hein, qui est celui du sport qui est naturellement vertueux, qui est l'école de la vie, l'ascenseur social. Il peut l'être à condition qu'on y mette les moyens de la méthode. Et ça, ce sont les éducateurs, les professeurs des écoles, les entraîneurs qui vont utiliser le sport non pas pour gagner un match mais pour gagner dans la vie.
Vous voulez dire le sport sans les éducateurs, c'est une pluie d'insultes à la fin d'un match. On peut le voir d'ailleurs dans le domaine du foot, sur les réseaux sociaux.
Quand on parle de sport, en fait, on parle de sport au pluriel, puisqu'il y a des réalités très différentes entre la Coupe du Monde, les matchs du PSG contre l'OM. C'est ce dont on parle beaucoup, ce dont on parle moins, ce sont toutes celles et ceux qui, au quotidien, vont utiliser le sport comme un outil d'accompagnement, notamment pour la jeunesse.
Un autre message d'un voisin qui est à Kisangani en RDC, VV. J'aime le sport, le foot en particulier. Le sport a fait de moi ce que je suis aujourd'hui, gentil, sociable, respectable, respectueux. Grâce au sport, nous dit cet auditeur, j'ai trouvé une grande famille. On n'est pas tous de la même famille biologique, mais on s'aime plus que des frères et on se sent toujours à l'aise ensemble. Et puis écoutez aussi le témoignage de Fawzia Tou à Abidjan, les basketteuses en fauteuil roulant, elle a découvert ce sport sur ses deux jambes auparavant.
Je pratique le basket en fauteuil roulant. Chaque joueur a son tempérament, son éducation et il arrive parfois qu'il y ait des mésententes entre coéquipiers. Mais une fois qu'on est sur le terrain, on met cette dispute de côté car on joue pour une même cause, pour une victoire collective. Donc grâce à ça, je sais faire la part des choses dans la vie. Le sport de compétition nécessite un mental fort et c'est ce mental qui m'a permis, entre autres, de continuer à me battre même après mon accident. Et ce sont ces valeurs que j'essaie de partager à travers ma page Facebook « C'est encore possible ». Qui dit sport dit discipline et cette discipline au sport me sert également en dehors du terrain, notamment dans l'éducation de mes enfants, l'organisation de mes journées entre travail et vie de couple.
Jean-Luc Agboyibo, vous qui avez vécu à Abidjan, dans le petit monde du basket, on se connaît, vous connaissez Fawzia Tou ?
Non, non, je ne la connais pas, mais je trouve que ce qu'elle dit est extrêmement vrai. Et puis elle a employé un mot, elle parle de discipline, et je pense que c'est vraiment le cœur de notre activité au sein de Milledoux. Mais je tâcherai la prochaine fois de prendre attache avec cette personne, parce que ce qu'elle dit est très vrai.
David Blow, votre livre, ça s'appelle « Sport washing ». Ça veut dire que le sport lave. Lave quoi ? Des milliards ?
Bah, ce sport washing, parce qu'effectivement, le sport est utilisé pour énormément de choses différentes. Et bien souvent, quelle que soit la finalité de cette activité sportive, qu'elle soit économique, politique ou autre, bah, les valeurs du sport viennent avec. Et malheureusement, les valeurs du sport ne sont pas automatiques. Elles se travaillent au quotidien à travers des actions de clubs, d'associations, d'ONG. Et donc, il faut savoir faire la part des choses et mettre en lumière toutes ces initiatives qui sont positives et non pas avoir ce voile du sport qui serait une réponse à tout, une baguette magique, alors que ce n'est malheureusement pas le cas.
Oui, alors la face A du sport, c'est une usine à produire du spectacle, hein, quand même du grand spectacle, un marché mondial du sport qui génère plus de 850 milliards de dollars de chiffre d'affaires par an. Sport business, avec les dérives que l'on connaît. Vous dites en fait que on n'a pas su s'arrêter dans cette course à la performance.
Non, enfin, fondamentalement, c'est la rencontre entre le sport et le capitalisme qui fait qu'il y a une explosion de cette économie du sport et donc des enjeux qui dépassent assez largement le sport qu'on connaît au quotidien. Et donc, ce sont tous les discours qui vont avec et des dérives qui deviennent complètement aberrantes. Il me semble que le Qatar, par exemple, pour la Coupe du Monde qu'elle va organiser, va dépenser l'équivalent de 67 fois le budget annuel des Nations Unies. Donc, quel est l'intérêt de cette Coupe du Monde alors que cet investissement aurait pu être plus intelligent ou plus utile aux êtres humains si c'était investi dans les programmes d'éducation par le sport.
Et vous-même, comment vous avez découvert l'intérêt du sport sur le plan social?
Bah, j'ai travaillé pour une ONG qui s'appelle Play International pendant une dizaine d'années. Et la première expérience que j'ai eue avec cette ONG, c'est en allant sur le terrain, en Haïti, peu de temps après le séisme. Et j'ai découvert en fait ce que faisait l'association dans ce contexte-là. Elle menait des campagnes de prévention au choléra dans les camps de déplacés. Et je n'avais jamais associé jusqu'à présent, jusqu'à ce moment-là en tout cas, l'utilisation du jeu sportif et une finalité éducative et sanitaire aussi importante. Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit, au final, on est un peu à côté de la plaque, parce que quand on parle de sport, on parle de la performance ou on parle de la pratique quotidienne, alors qu'en fait, on peut sauver des vies, on peut influencer très positivement des parcours de vie.
Oui, mais alors dans ce cas-là, le sport n'est qu'un prétexte pour faire passer un autre message de prévention santé ou autre chose. Certains pourraient émettre une critique par rapport à ça.
Je pense que là, ce qui est important, c'est de considérer le sport non pas comme quelque chose de positif ou de négatif, mais comme quelque chose de neutre qu'on peut utiliser pour faire des bonnes choses, comme on peut utiliser pour faire d'autres choses. Et donc, je pense que c'est important de voir le sport comme un moyen et pas comme une finalité, même si c'est important de pratiquer du sport. Hein, la sédentarité et l'inactivité physique sont devenues la première cause de mortalité évitable dans le monde. Donc, il faut bouger. Mais le potentiel du sport en matière d'éducation, en matière d'inclusion sociale, en matière de coopération, il est aujourd'hui complètement sous-utilisé.
Jean-Luc Agboyibo, alors vous êtes des deux côtés de cette face du sport, hein, puisque vous avez créé un programme social d'éducation par le sport qui s'appelle Milledoux. Vous êtes revenu sur le continent africain d'ailleurs pour créer ce programme. Vous avez travaillé en France, notamment dans la finance d'ailleurs. Et puis aujourd'hui, vous êtes basé à Dakar parce que vous travaillez au sein de la Basketball Africa League. Comment vous arrivez, déjà, comment vous percevez le discours de David Blow et comment vous arrivez à concilier les deux?
Déjà, bah, merci hein, pour le témoignage de David. Ce qu'il dit est en partie vrai. Enfin, je pense que je ne peux pas le contredire quand il dit que le sport pour l'éducation et le développement est sous-utilisé, qu'il y a trop d'investissements dans le sport business. Mais je pense que c'est depuis que quelques années hein, qu'on est en train de prendre conscience de tout ce que le sport peut apporter en complément de ce que bah, l'école peut faire. Et je ne pense pas que ce soit de la mauvaise volonté de toutes les instances de ne pas avoir mis un plus tôt sur le sport. Je pense que c'est une vraie prise de conscience avec tout ce qui se passe dans le monde depuis quelques années maintenant. Moi, la raison pour laquelle je me suis lancé dans le projet 2012, c'était vraiment pour rendre quelque chose que j'ai eu en France. J'ai eu cette chance de faire du sport tous les jours. Quasiment, j'ai eu la possibilité de créer une communauté grâce au basket. J'ai quitté mon pays relativement tôt et je suis parti sans les parents. Donc, le programme...
Vous avez quitté le Togo à 13 ans. Et le basket, ça a produit quoi sur vous?
C'est un changement total. C'est que moi, j'ai commencé par le football. J'ai découvert le basket qu'à 17 ans. Mais j'ai eu cette chance de faire des tournois en Europe où on mélangeait les filles et les garçons. J'ai eu cette chance de faire un sport en salle qui me permettait de m'éclater en hiver. Mmh. Et c'est toutes ces petites choses-là, en fait, les infrastructures, quand je suis rentré au Togo, de me rendre compte qu'il n'y avait pas des terrains partout, de me rendre compte que la plupart des activités ne permettaient pas aux garçons et aux filles de grandir ensemble, je me suis juste dit, pourquoi pas essayer de répliquer ça. Et sans mentir, je ne veux pas dire que j'avais une vision derrière, mais je voyais quelque chose qui m'avait l'air assez évident. Et j'ai eu cette chance, dès le départ, d'avoir les dirigeants de la NBA Afrique qui m'avaient dit si je voulais faire quelque chose chez moi, qu'ils me suivraient. Et je suis parti comme ça. Après, le reste, c'est vraiment la population, les jeunes qu'on avait rencontrés qui ont pris les choses en main. Et surtout, je pense qu'au tout début de l'émission, on a parlé du rôle des éducateurs. C'était très difficile de faire prendre conscience que le meilleur moyen d'impacter les jeunes, c'était de créer un réseau d'éducateurs.
Oui.
Et tu vois, enfin, la plupart des bailleurs ou des partenaires voulaient impacter les jeunes. Et ils ne comprenaient pas pourquoi c'était extrêmement important pour moi
C'est vrai que pour les profanes, on se dit qu'il suffit de mettre un panier de basket dans un quartier, les jeunes vont jouer tout seuls, et puis voilà, la mayonnaise va prendre toute seule. Mais David Blow, vous dites carrément que le sport business serait nuisible en fait à l'impact social du sport. Le sport tel qu'on le connaît aujourd'hui, dans les médias.
Pas forcément, et les choses sont complémentaires. Et à partir du moment où le sport économique peut servir au sport social, et il existe des initiatives de beaucoup d'entreprises qui vont investir dans des programmes, je pense qu'il ne faut pas les opposer, mais en avoir conscience. Et surtout, bien avoir en tête que ces valeurs ne sont pas automatiques et qu'il faut, comme l'a dit Jean-Luc, des éducateurs, de la formation, de la méthode pour transformer ce rêve d'un sport citoyen, social, éducatif, en réalité sur le terrain. Et je pense qu'il faut bien regarder ce qui se passe en fait dans l'activité physique elle-même. Est-ce que pendant une séance, les participants vont être très focalisés sur la compétition, la performance, et auquel cas, il peut se passer de belles choses positives, ça c'est sûr. En revanche, si on se dit qu'il y a un objectif beaucoup plus ciblé de promouvoir l'égalité entre les filles et les garçons, de promouvoir le changement de regard sur le handicap, là, ça nécessite de faire un peu différemment et de revoir un peu les règles. Chez Play International, par exemple, l'ONG a créé une méthode qui s'appelle la plaidagogie. C'est la pédagogie par le jeu, avec différentes phases dans le jeu qui vont permettre aux enfants de vivre des expériences et de mieux s'en rendre compte parce qu'ils ont partagé une émotion et d'en débattre derrière. Et on voit que les taux de rétention de l'information sont plus importants que la partie ludique. Et je pense que c'est une donnée clé dans le sport, c'est cette dimension jeu qui permet de mobiliser les enfants et les intéresser à une thématique.
Jean-Luc Agboyibo, il y avait cet auditeur qui nous disait en début d'émission, Eladj, qui nous disait le sport éduque au respect de l'adversaire, à l'acceptation de la défaite sans aucune rancune. Vous êtes d'accord avec ça, Jean-Luc? Est-ce que c'est quelque chose qui est intégré chez les éducateurs du programme Milédou?
Je suis à 100% totalement d'accord et je dis souvent que le sport, c'est un peu l'école de la vie et c'est vrai que cette notion de respect de l'autre, d'acceptation de l'échec dans la vie de tous les jours, c'est pas courant pour
non,
les jeunes.
Et, c'est ce que j'allais dire, c'est pas tellement l'école de la vie du coup, dans la réalité.
C'est la vie dans la. En tout cas, c'est la vie qu'on devrait avoir.
Oui.
C'était pas notre qualité, c'était pas le la manière dont on vit aujourd'hui, mais c'est la manière dont on devrait vivre. Et je pense que les jeunes l'acceptent assez spontanément quand on pose le bon cadre. Et quand les coachs, comme David l'a dit, sont le bon exemple. Après, nous, c'est vrai qu'il y a eu une difficulté au tout début, c'était que les coachs prennent conscience eux-mêmes du rôle qu'ils ont à jouer. Nous, on a fait des très belles avancées depuis 3-4 ans maintenant parce qu'on a introduit un psychiatre dans notre programme pour déconstruire les coachs eux-mêmes et qu'ils se rendent compte des erreurs qu'eux-mêmes peuvent faire et qu'ils transmettent aux jeunes sans même s'en rendre compte. Donc, enfin, moi, j'ai tendance à nuancer les choses en me disant que c'est la faute de personne, c'est le monde dans lequel on vit et que le sport peut permettre de remettre les gens dans le bon sens et dans la bonne direction.
On va en reparler du rôle du psychiatre avec les éducateurs, comment on déconstruit les idées reçues. Juste pour rappel, donc il y a 37 éducateurs entre le Togo et la Côte d'Ivoire, c'est ça, avec pas loin de 900 jeunes.
Exactement, on a entre 850 et 900 jeunes cette année. On doit les recenser et Covid même n'aide pas trop, mais c'est exactement ça les chiffres et ils sont dans 11 localités.
Et comment est financé le programme aujourd'hui, puisque justement on parlait de ce sport business où il y a tellement d'argent. Est-ce que cet argent ruisselle un peu sur des activités comme la vôtre?
Alors, bon, quand on a commencé il y a maintenant bientôt 8 ans, c'était des levées de fonds via du crowdfunding, via des dossiers pour des fondations essentiellement. Depuis 2 ans, il y a cette prise de conscience qu'on a quand même un projet qui plaît aux jeunes, qui plaît aux sponsors. Donc on est allé plutôt dans une direction aussi de faire un peu de marketing. Donc je pense que c'est bien d'avoir de l'aide, c'est bien d'avoir des subventions, mais pour rendre ce genre de projet pérenne, il faut créer un cadre et il faut montrer qu'il y a un produit. Et puis il y a ces budgets au niveau du marketing. Toutes les boîtes aujourd'hui veulent avoir un impact social. Et je pense que c'est dans l'intérêt des gens qui pilotent des projets comme le mien de prendre conscience que cette dimension de marketing, elle n'est pas mauvaise et qu'en montant bien les projets, ça peut faire sens pour tout le monde de créer ce rapprochement entre la RSE et le marketing.
Ça veut dire que vous gagnez de l'argent, le programme se fait financer entre autres par des entreprises que vous conseillez notamment?
Exactement, donc on a eu pas mal de fondations qui nous ont aidés, mais de plus en plus aujourd'hui, on a des sponsors, notamment à Yopougon, où on a identifié un centre commercial qui s'est implanté et qui a pris conscience que plus ces jeunes se porteraient bien, plus ces jeunes auraient une bonne éducation, mieux ce serait pour eux. Donc c'est des gens qui nous accompagnent et qui investissent sur nous. Aujourd'hui, ce n'est pas la majeure partie de notre financement, mais c'est quelque chose qu'on veut faire grandir. Donc en discutant avec ce type d'entreprise, on essaie de trouver des centres d'intérêt communs, tout en respectant nous, nos valeurs, que l'humain sera toujours au cœur, que ce n'est pas une histoire de divertissement. Mais je pense qu'on est dans un monde qui est en train de changer avec... Covid qui a presque obligé beaucoup de gens à...
Avec un changement de regard sur le sport, justement, on va vous donner la parole, les voisins et les voisines. Vous pouvez nous appeler au 33 7 64 45 51 41. Jean-Luc Agboyibo, vous restez bien sûr en ligne avec nous. En studio, David Blot. On donne la parole à un voisin qui nous appelle de Cotonou. Bonjour Assib.
Bonjour, le plateau.
Assib, alors vous êtes pas dans le basket, hein, vous êtes un passionné de taekwondo. Vous êtes ingénieur civil dans la vie, entraîneur également de taekwondo. C'est votre passion depuis... Bon, peut-être on va rappeler ce que c'est le taekwondo. Je ne sais pas si tout le monde sait, Assib.
Oui, en fait, le taekwondo, c'est un art martial.
Oui.
Oui, pratiqué plus avec les pieds. On donne plus de coups de pied. Et on fait des démonstrations. Il y a des rondes à passer, il y a des compétitions à faire, et il y a le taekwondo artistique et puis il y a le taekwondo de base.
Mmh.
Voilà.
Alors vous avez fait énormément de taekwondo à certains moments de votre vie. Je crois que vous en faisiez jusqu'à 6 heures par semaine. Aujourd'hui, vous êtes entraîneur auprès de jeunes?
Oui, la pratique du taekwondo pendant 10 ans m'a permis d'avoir le titre d'entraîneur. Donc, je suis actuellement... Sinon, je fais partie des entraîneurs de mon club.
Oui.
Voilà. Donc j'encadre un certain nombre d'élèves, des plus jeunes aux plus âgés.
Qu'est-ce que vous observez? Vous faites ça bénévolement, à Cib ou pas?
Oui, bénévolement, parce que bon, c'est, disons, une habitude. J'aime bien, c'est ma passion et je m'y donne.
Ouais, et puis parallèlement, vous avez un métier, donc c'est un sacré investissement. Pourquoi vous avez décidé d'être entraîneur, de passer du temps avec les jeunes? Qu'est-ce que vous observez? Qu'est-ce qui vous plaît là-dedans?
Oui, il faut dire qu'à la base, je pratiquais le taekwondo à l'âge de 12 ans. Et par négligence, je l'ai arrêté. Mais après mon second boulot, le stress était à un niveau où il fallait décompresser. Donc, je me suis remis à cette discipline sportive-là. Et ça m'a beaucoup apporté parce que professionnellement, j'arrivais à tenir devant le niveau de stress que mes collègues n'arrivaient pas du tout, enfin, devant lesquels ils n'arrivaient pas à tenir. Et puis, ça m'a permis de me construire. Je suis quelqu'un de, disons, un peu nerveux. Avec le taekwondo, je suis arrivé à maîtriser mes nerfs. Je suis devenu plus serein et puis j'aborde plus facilement les difficultés.
Et qu'est-ce que vous transmettez aux jeunes?
En ce qui concerne les jeunes, au cours des entraînements, je leur apprends à anticiper, à être organisé, à se dire toujours qu'ils peuvent arriver devant les situations les plus difficiles, qu'ils peuvent toujours trouver une solution et ne jamais baisser les bras. C'est très important dans la vie.
Ça marche auprès des jeunes?
Ah, oui.
Qu'est-ce que vous observez?
Oui, les plus jeunes. Les plus jeunes, au départ, il y en a qui, après le premier entraînement, se mettent à pleurer. Au cours du premier entraînement, se mettent à pleurer. Il y en a qui n'ont pas vraiment de goût. C'est leurs parents qui insistent à ce qu'ils arrivent. Et après le premier entraînement, ils prennent du goût, ils se mettent au pas. Et là, on voit que ça prend. Et chaque dimanche, avant même qu'ils ne soient l'heure de l'entraînement, c'est eux qui contraignent leurs parents à venir. Donc, voilà un peu.
Ben merci beaucoup, Assib. Vous avez un dernier message à faire passer?
Oui, c'est prier tous ceux qui peuvent le faire le plus souvent, de marcher assez souvent, 30 minutes de marche chaque jour, ou faire le sport au moins une fois par semaine, parce que ça permet en fait de régulariser tout au niveau de l'organisme. Ceux qui ont des pathologies déjà peuvent, rien qu'en marchant, et prévenir des situations les plus difficiles, parce que la santé, c'est le premier capital de l'homme.
Et puis, marcher, si on n'a pas la chance d'avoir un club et un super entraîneur comme vous, c'est déjà pas mal. David Blo,
que je peux.
Ouais, vous voulez réagir, David Blo?
Non, bravo pour cette initiative. Moi, je trouve ça très, très positif. Et je tenais aussi à souligner, d'un point de vue un peu plus global, au niveau mondial, on a quand même un mouvement positif. Depuis 20 ans, il y a un nombre d'organisations de la société civile qui s'emparent du sport comme un outil pour promouvoir la santé, etc. Donc c'est une dynamique positive.
Et vous êtes nombreux à nous poster des messages. Appelez-nous, les voisins, les voisines, si le sport a changé votre façon d'être au monde, d'être avec les autres aussi. Contactez-nous surtout dès maintenant au 33 7 64 45 51 41. Allez, d'ici là, on donne la parole à Soprano et Vincenzo, le cardio à la salle, comme si vous y étiez. Bon, en général, tout le monde a ses petits écouteurs sur les oreilles, chacun dans son couloir, sans se parler. Super ambiance, mais là, non, c'est avec le coach.
Il est temps d'aller pousser, on a des rêves à soulever. Ta balance fait trop la gueule, il va falloir éliminer. Faut souffrir pour être beau, pour pas se faire photoshopper. Ne t'arrête pas quand t'as mal, mais plutôt quand t'as tout donné. Oui, tout donné. Toujours se relever, toujours recommencer. Interdit d'abandonner. Faut taffer le cardio pour mieux endurer. Faut taffer les abdos pour mieux encaisser. c'est musclé. Il est temps d'aller pousser, on a des rêves à soulever. Allez, 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 allez. Relève-toi, c'est dans la tête, on est ensemble, on va y aller. Allez, 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 allez.
Abdo, gips, pompe, barre. Abdo, gips, pompe, barre. Enchaîne les squats, enchaîne les squats, enchaîne les squats, squat, squat. Abdo, gips, pompe, barre. Abdo, gips, pompe, barre. Frappez au sac, frappez au sac, frappez au sac. Allez, va chercher le chrono, va chercher le chrono. Tous ensemble à la ligne d'arrivée, tous ensemble à la ligne d'arrivée. On va taper dans le cardio, on va taper dans le cardio. On va viser dans le coche, tu vas savoir qui est coach.
Faut taper le cardio pour mieux endurer. Faut taper les abdos pour mieux encaisser. La vie c'est musclé.
Vu hein, l'ambiance à la salle de musculation par Soprano et Vincenzo. On est ensemble, 7 milliards de voisins, on est en direct surtout et on parle du sport, les valeurs sociales du sport, pas seulement son petit nombril pour se faire des beaux muscles et finalement se rendre instagrammable. Hein, parce que c'est quand même aussi beaucoup devenu ça aujourd'hui, le sport. On en discute avec vous, David Blow, vous publiez Sport Washing. Que sont devenues les vraies les valeurs du sport? Et puis Jean-Luc Agboyibo, vous nous parlez de ce programme Milledou. Vous êtes aussi responsable des partenariats maintenant à la NBA Afrique. Vous êtes basé à Dakar, mais le programme Milledou est en Côte d'Ivoire et au Togo. Et justement, on parlait de la nécessité d'avoir des éducateurs très professionnels si on veut avoir des résultats, avoir un impact social du sport auprès des jeunes. On est en ligne avec un éducateur du programme Milledou, Richard Womagno. Bonjour Richard.
Bonjour, bonjour tout le monde.
Richard, alors vous êtes un ex du programme du côté des jeunes. Racontez-nous pourquoi et comment vous avez rejoint le programme Milledou. Vous aviez 16 ans à l'époque, non? 16 ou 17 ans?
C'est plutôt 16 ans.
Ouais. Et vous vouliez faire du basket.
Il y a un matin, le programme, Jean-Luc est arrivé avec son équipe. Ils nous ont parlé un peu de leurs activités, l'importance du sport dans notre vie et dans notre communauté. Moi, ce qui m'intéressait à l'époque, c'était plutôt ce que l'association me donnait. Plutôt. Et nous, jeunes joueurs de basket, c'était l'NBA qui était notre priorité. Après leur départ, j'ai envoyé un message à Jean-Luc que voilà, je verrais bien rejoindre la NBA. Il m'a dit que la finalité du basket, ce n'était pas la NBA, mais ce qu'il essaie de construire, c'était plutôt des gens conscients et engagés dans la société. Un message qui m'a un peu choqué à l'époque.
Pourquoi ça vous a choqué?
Parce que ce n'était pas vraiment ce à quoi je m'attendais. Parce que moi, quand il y a une association comme ça, c'est surtout pour envoyer des gens à la NBA, pour faire de nous des grands professionnels.
Jean-Luc Agboyibo, vous reconnaissez que vous avez douché les rêves de Richard à l'époque?
Non, mais c'est vrai qu'à l'époque, ils étaient tous un peu choqués par mon discours, d'autant plus que dès notre premier projet, on a fait venir un coach de la NBA Afrique. Et ils ne comprenaient pas trop pourquoi il y avait des coachs de la NBA Afrique et que je leur disais que la finalité du programme, ce n'était pas d'aller en NBA. Et je pense que Richard a été un des premiers à prendre conscience par lui-même. En tout cas, nous, on créait le cadre. Hein. Ceux qui avaient le talent et ceux qui avaient la possibilité d'aller plus loin, ça s'est fait. Mais le but du projet, c'était d'impacter cette masse et d'ouvrir les yeux à tous que ce qu'on construisait allait bien au-delà de la NBA. Et je pense que je suis très heureux que Richard ait été un des premiers à prendre conscience assez tôt que ça allait bien au-delà juste de la pratique du jeu, quoi.
Richard Womagno, alors finalement ensuite vous êtes devenu coach, éducateur à votre tour?
Oui, oui.
Richard Womagno, il faut couper la radio qui est à côté de vous parce que je pense qu'on a des difficultés de ligne téléphonique. Est-ce que vous pouvez couper et on vous écoute?
Ok.
Allez-y, Richard. Vous êtes à l'antenne en direct chez 7 milliards de voisins.
Ok.
Richard, vous êtes toujours en ligne avec
okay,
nous?
Ok, c'est ça.
Allez-y.
Oui, oui. Après le message de Jean-Luc, j'ai été sélectionné pour un camp pendant lequel j'ai rencontré d'autres jeunes venus de presque tous les horizons du pays. Et là, je me suis fait beaucoup d'amis. Après, la situation s'intéressait beaucoup plus aux études, à nos études. Ils ont même déjà commencé par payer mes études. Et là, je vois que là, ça sort carrément du basket. Ils encourageaient plutôt mes études, mon comportement à la maison. Et les coachs qui m'encadraient à l'époque venaient même de temps en temps dans ma maison. Et là, je me suis fait plein d'amis. Après, j'ai participé à beaucoup de camps, des camps de formation, des camps d'échange, d'entrepreneuriat et tout et tout. Grâce à l'association même, j'ai rencontré Samuel Nadeau, quelqu'un qui a sacrifié presque tout ce qu'un basketteur peut désirer pour se consacrer à sa maman. Une chose qui m'a beaucoup touché parce qu'à l'époque, c'était pas trop ça avec ma mère, qui m'a poussé un peu vers ma mère. Aujourd'hui, elle et moi, on est beaucoup plus proches qu'avant. Donc, c'est des choses comme ça qui m'ont poussé à devenir éducateur.
Ça a changé effectivement des choses dans votre façon de vous comporter, dans votre façon de vous projeter dans la vie. Jean-Luc Agboyibo, je sais que dans le programme Miledou, qui est présent donc, en Côte d'Ivoire et au Togo, dans à peu près 8 localités, hein, je crois, au Togo, ça touche pas loin de 900 jeunes dans les deux pays. Il y a que 25% de filles. Pourquoi si peu?
Alors, si peu, l'année dernière, on avait un tiers de filles et cette année, on a décidé d'étendre le programme aux préadolescents parce qu'on se rendait compte que les problèmes qu'on peut rencontrer chez les jeunes, les problèmes de comportement, et c'est plus facile de les déconstruire chez les jeunes de 8-9 ans. Et ce qui s'est passé, c'est que en fait, il y a eu un plus grand nombre de petits garçons qui sont venus dans le programme. Donc, on a toujours beaucoup plus de filles, mais beaucoup plus de filles qu'avant. Mais ce qui se passe, c'est que les parents laissent plus facilement les petits garçons sortir. Donc, on accueille de plus en plus de jeunes filles, mais le problème, c'est vraiment l'accès au sport pour les jeunes filles. Donc, je pense que c'est 25%. Si on prend le pourcentage, oui, ça paraît peu, mais dans la réalité, c'est qu'il y a de plus en plus de jeunes filles qui viennent, mais c'est surtout qu'il faut faire ce travail d'éducation auprès des parents pour laisser les petites filles aussi venir plus facilement à nos activités. Mais c'est un travail qui nécessite du temps.
David Blo, le problème des filles qui font moins de sport dans un pays comme la France à partir de l'adolescence, où elles disparaissent des circuits sportifs par rapport aux garçons?
Oui, c'est un vrai problème et on voit que plus les filles grandissent, moins elles sont investies dans le sport. Il y a des raisons très, très variées à cela et des réalités qui sont celles de la cour d'école. C'est-à-dire que les garçons jouent au foot au milieu de la cour d'école et les filles sont reléguées sur les côtés et ne sont pas intégrés et ne jouent pas avec les garçons. Donc je pense que si on veut évidemment démocratiser l'impact positif du sport, il faut aussi aller chercher celles et ceux qui en sont les plus éloignés, celles qui ne sont pas forcément passionnées de sport, celles et ceux qui sont choisis en dernier quand on fait les équipes. Et pour ça, c'est le rôle de l'éducateur, de trouver les clés et les méthodes pédagogiques pour inclure le maximum de personnes, pour créer la mixité. Et c'est aussi, je pense, mettre peut-être un peu moins de performance et plus de coopération. dans le sport aujourd'hui, on ne valorise pas la coopération et on se rend compte que, bah, en fait, quand on a des jeux où les joueurs doivent coopérer, les filles et les garçons peuvent mieux jouer ensemble.
Qu'est-ce que ça change au niveau des filles, Jean-Luc Agboyibo, pour les filles qui participent au programme Milédou de basket? On a un petit problème de ligne téléphonique, on va vous rappeler Jean-Luc Agboyibo. Vous continuez de nous appeler, bien sûr, pour participer et nous dire ce que le sport a changé dans votre façon de vous comporter, dans la société, dans votre façon de voir les autres aussi. 33 7 64 45 51 41, on donne la parole à Moussa qui est enseignant. Bonjour Moussa.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes en Guinée, dans la région du Fouta-Djallon, à Mamou, c'est bien ça Moussa?
À Mamou, exactement.
On vous écoute, vous êtes en direct chez 7 milliards de voisins.
Alors, enfin, le sport m'a rendu fier. Le sport, quand j'ai commencé à pratiquer le sport, ça m'a beaucoup aidé à faire des longs voyages, à faire des travaux physiques. Et je suis libre dans mon esprit. C'est vrai que le sport m'a aidé beaucoup à l'école, quand je pratique le sport. Quand je vais en classe, je me sens très très bien et puis je réponds aux questions des enseignants. Et ça m'a rendu très fort.
Oui. Et aujourd'hui, vous continuez à jouer au foot, Moussa?
Oui, bien sûr. Je continue à jouer au foot et je pratique le sport parce que le sport m'a fait oublier beaucoup de soucis tels que la pandémie là et ça m'a aidé. J'ai même mon premier fils que j'apprends à jouer actuellement parce que moi, je n'ai pas eu la chance d'accéder à l'académie du football. Donc, je veux que mon enfant fasse le sport. Comme moi, je n'ai pas eu la chance, donc je vais mettre à ma place mon enfant.
C'est ça, vous transformez en enseignant de sport pour votre enfant. Merci Moussa de nous avoir appelé. Merveille nous appelle également de Yaoundé au Cameroun. Bonjour Merveille, vous avez 24 ans.
Oui, bonjour Emmanuel, bonjour à tous les auditeurs de la RFI.
Basket trois fois par semaine pour vous?
Oui, trois fois par semaine.
On vous écoute, Merveille.
Bon, je vois que le sport vraiment m'a rendu beaucoup de services et grâce au sport, vraiment, je suis ce que je suis aujourd'hui. Et grâce au sport, moi, je pratique le basketball. Et grâce au basket, j'ai essayé quand même de tisser des relations avec les autres, le vivre ensemble, le respect, l'amour et beaucoup de choses.
Vous avez découvert le basket comment? Il y avait un club, des éducateurs?
Oui. Avant, quand j'étais encore en Centrafrique, c'est grâce à mon grand frère, lui aussi, il est déjà à l'étranger, qui continue encore de jouer dans le basketball. Et c'est lui qui m'a vraiment poussé à aimer le sport. Et jusqu'alors, là, je continue vraiment à lui remercier.
Mais c'était à Bangui? Il y avait un vrai club ou c'était juste du basket comme ça dans le quartier, pas organisé?
Bon, à Bangui, il y avait des clubs, mais je n'ai pas vraiment eu la chance d'insérer ces clubs. C'est ici au Cameroun que j'ai quand même eu la chance d'entrer dans un club.
Bravo à vous, en tout cas, merci de nous avoir appelé. Vous pouvez continuer de nous téléphoner au 33 7 64 45 51 41. Richard, éducateur au Togo pour le programme Milédou, vous êtes toujours en ligne avec nous. Richard Womagno?
Oui, je suis toujours là.
J'aimerais que vous nous disiez, parce qu'on s'intéressait à la problématique des filles. Aujourd'hui, vous êtes devenu entraîneur de basket pour des filles, c'est bien ça?
Oui.
Comment ça se passe? Qu'est-ce que le basket apporte à ces filles? Vous êtes dans une petite ville au Togo où le sport ne va pas de soi pour les filles.
Oui. Le programme de façon générale, essaie de créer une famille, un réseau où les gens peuvent se soutenir et se comprendre mutuellement. Donc c'est ce que j'essaie de mettre sur pied ici également. Les filles qui arrivent, la première chose à faire, c'est de les mettre en confiance et de les mettre en famille entre elles, où elles peuvent s'échanger, se soutenir. Et je pense que quand il y a déjà ce réseau, il y a un truc déjà mis sur place comme ça, le suivi est un peu plus facile parce que déjà ils se sentent compris et entendus. Donc je pense que c'est un peu la base de ce qu'il faut, créer un réseau, une famille pour elle d'abord, et ensuite le reste doit arriver, quoi.
Ouais. Le réseau, justement, Jean-Luc Agboyibo, que deviennent les jeunes qui ont fait partie de ce programme ensuite ?
Bon, alors, il y a pas mal de débouchés. Hein. Je pense que le fait de voir Farid Shaab va devenir coach, ça inspire un certain nombre. On a des jeunes qui ont eu des bourses et sont partis faire des écoles d'excellence en Afrique du Sud, et certains sont partis aux États-Unis. Mais c'est vrai que le but du projet a toujours été d'impacter cette masse, et donc on n'a pas tendance à mettre en avant juste les belles histoires de qui a voyagé. Je pense que les parcours les plus inspirants sont ceux de Richard, sont ceux de ceux qui ont pu avoir le bac, qui sont à l'université aujourd'hui, montent des projets. Mmh. Et je pense que c'est plutôt ça le plus important. Avant que ça coupe, là tout à l'heure, vous me demandiez quel est l'impact qu'on peut avoir sur les filles. Moi, j'ai eu la malchance, il y a quelques années, de voir une de mes sœurs être victime de violences domestiques. Et puis, je sentais qu'il y avait ce problème d'estime de soi,
oui,
où elle ne voulait presque pas porter plainte. Et je pensais à toutes les filles dans les villages, toutes les filles avec lesquelles on travaillait, et je me disais, c'est peut-être ça la base du projet, c'est qu'on ne peut pas les aider tant qu'elles n'arrivent pas à dire non elles-mêmes. Mmh. Et c'est ce qu'on essaie d'apprendre à ces filles aujourd'hui. C'est vraiment qu'elles ne se laissent pas faire, qu'elles se battent. Et c'est à partir du moment où elles auront une meilleure confiance en elles qu'elles pourront nous dire ce qui ne va pas et qu'on pourra intervenir, parce qu'on sait tous ce qui se passe dans nos foyers, ce qui se passe dans nos maisons. Et tant qu'on gardera le silence, en fait, il ne se passera rien. Donc ce n'est pas pour s'attaquer à qui que ce soit, mais c'est vraiment d'outiller les personnes pour qu'elles puissent elles-mêmes dire non. Et après, nous, on peut intervenir. Sinon, on n'a pas vraiment d'informations sur ce qui se passe dans leur vie. Et Richard ne le dira pas, mais le travail qu'il fait est juste exceptionnel. Et ce n'est pas quelque chose qu'on explique par des mots. C'est la personne qu'il est. C'est le fait qu'il a accepté sa masculinité. C'est le fait qu'il baisse la garde, qu'il s'ouvre à ses jeunes, à ses filles, qu'il peut lui parler. Et ce sont des compétences de vie qu'il a eues à travers le programme, qu'il a eues à travers son éducation aussi, et qui lui servent aujourd'hui à créer cet espace où les jeunes filles viennent dans le programme, mais surtout, elles restent.
Ouais.
Et le fait qu'elles restent nous permet de les garder sur les bancs de l'école, nous permet de lutter efficacement contre les problèmes de grossesse précoce. Il a été très affecté par une des filles de son programme qui est tombée enceinte, mais il ne faut pas oublier qu'on ne pourra pas aider tout le monde. Et plus on aura de Richard, mieux on se portera.
Voilà, il faudrait beaucoup de Richard comme ça. Richard, vous êtes toujours en ligne avec nous. Vous avez beaucoup de compliments de la part de Jean-Luc. Mais vous, qu'est-ce qui vous... S'il y avait une chose qui vous rend fier en particulier en tant qu'éducateur sportif?
Je pense plutôt que ça vient du compliment de la famille. Les familles, les filles, des fois, elles ne viennent pas de la même famille, même du même cadre social, mais les résultats, en fait, viennent des parents. Il y a là, une semaine, j'ai fêté mon anniversaire. Il y a un des jeunes qui m'a offert une bande dessinée, chose que je n'ai jamais vue. Et franchement, ça m'a rendu très fier.
Ouais. Vous êtes vraiment devenu une personnalité qui compte dans la société au niveau de votre ville. Merci beaucoup d'avoir été en ligne avec nous. Je voudrais juste laisser la parole pour conclure à David Blot. Comment on fait pour accroître concrètement l'impact du sport? À quelles conditions?
Il y a une vingtaine d'années, Nelson Mandela a fait un discours où il disait que le sport avait le pouvoir de changer le monde. Malheureusement, il n'a pas aussi donné le mode d'emploi. Et je pense que c'est le sujet d'aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on fait. Et l'exemple de Richard est formidable parce qu'on voit tout le travail qu'il fait, tous les parcours de vie qu'il arrive à influencer positivement. Je pense que le sujet, c'est la formation et les outils. C'est comment est-ce que les États, les clubs aident ces éducateurs d'art à trouver les mots, trouver les clés qui permettent justement au quotidien d'accompagner ces jeunes filles, puis, ces jeunes garçons dans leur vie de tous les jours.
Et c'est un vrai métier. Hein. On terminera avec le message d'Ernest. Il est à Bamako et il nous dit « Moi, j'ai réussi à créer un intérêt national pour la marche et la randonnée. Il faut donner un cadre aux gens pour qu'ils aient envie de marcher. Il mobilise 100 à 200 personnes chaque dimanche pour marcher. Merci, bravo à vous aussi Ernest. Merci à vous tous les voisins pour vos messages, les voisines aussi. Merci à vous David Blot. Sport Washing, que sont devenues les valeurs du sport? C'est publié rue de l'Échiquier. Merci à vous Jean-Luc Agboyibo d'avoir été en ligne de Dakar, fondateur du programme Mille et Doux de basket. Et puis responsable aussi des relations partenaires au sein de la Basketball Africa League. Et merci à vous, Richard Womagno, éducateur au sein du programme Mille et Doux. Demain, 7 milliards de voisins, une génération en péril face au Covid, les étudiants, seuls devant leur écran depuis des mois et menacés de décrochage dans leurs études. Pour les pays, en tout cas, où les campus ne fonctionnent pas normalement, on en parlera demain. Et puis là, on se quitte avec Jim and Angel. Et on se retrouve demain, même heure, même endroit, en direct sur RFI, 7 milliards de voisins.
Yo te quiero ver. Llámame ya, que ya quiere yo llámame ya, que yo te quiero ver. Llámame ya, que ya quiere yo llámame ya, que yo te quiero ver. Llámame ya, que ya quiere yo llámame ya, que yo te quiero ver. Llámame ya.
De voisins, c'est fini pour aujourd'hui. Demain, on parlera du décrochage scolaire des étudiants en pleine pandémie. Merci à toute l'équipe qui prépare cette émission. Juliette Brault, Delphine de Diadouce, Romain Dubrac, Didier Cherouz. Et bien sûr, vous réécoutez toutes nos émissions en podcast sur les plateformes de téléchargement. Et vous nous retrouvez sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. À demain.
Tout à l'heure sur RFI, vous m'en direz des nouvelles avec Jean-